Bonjour. Eh bien, bienvenue sur Radio B 90 FM. Ce sont toujours les bonnes ondes pour votre chronique du passé. Bonjour Gilliane.
Bonjour Martine. Bonjour à tous. Nous respectons la promesse faite le mois dernier à nos auditeurs et nous allons nous promener sur les hauteurs de Césaria. Mais pour quelle raison, Martine ?
Eh bien, parce que là-haut, il y a l'antenne de Radio B pour envoyer les bonnes ondes aux auditeurs.
Nous pourrions parler des 40 ans de Radio B, mais cet anniversaire sera fêté au début de septembre. Nous en avons donc choisi un autre.
Plus ancien de 20 ans. En effet, il y a tout juste 60 ans, en 1962, un relais de télévision était installé au-dessus de Montjuly et la route a été aménagée jusqu'au sommet.
Eh bien, nous en parlons à présent d'intermède musical.
Nos auditeurs ont reconnu le célèbre indicatif de feu, l'ORTF, sur un tédéum de Marc-Antoine Charpentier. Nous parlons de télévision, et plus particulièrement de la tour hertzienne installée au-dessus de Césaria. Pourquoi avoir choisi un tel lieu, Gilliane ?
Cette montagne surplombe la Bresse et la Dombe d'environ 350 mètres. Un point idéal pour bien diffuser. Radio B a suivi l'exemple.
Et de quand date le projet ?
Du début des années 1960, la télévision se développe et de plus en plus de ménages s'équipent d'un téléviseur. Il faut leur assurer une meilleure qualité de réception des émissions.
Mais le sommet de la montagne n'est pas accessible aux camions ?
Eh non, pas tout à fait. En effet, les derniers hectomètres ne sont qu'un étroit chemin muletier. Le dossier est confié aux ponts et chaussées, qui étudient la rectification des virages et l'élargissement de la chaussée. Le sol est ferme, de bonne assise. Et rien ne s'oppose à la progression des travaux.
La tour est ensuite élevée, progressivement, avec tous les équipements nécessaires. Elle n'est pas sur le territoire de Césaria, mais en limite, sur la commune de Ramas. Quand est-elle opérationnelle ?
Si l'on se réfère à la presse locale, à partir du 1er avril 1963. La tour sert alors de relais entre les émetteurs du Mont-Rond au Pays de Gex, de Nuit-Saint-Georges près de Dijon, ou encore du Pilat dans la Loire. La couverture du territoire est ainsi mieux assurée.
La télévision. Revenons en arrière. Rappelons à nos auditeurs que la télévision est née en 1935 au sein du ministère des PTT, Poste, Télégraphe et Téléphone, au pluriel. La RTF, Radiodiffusion Télévision Française, est créée en février 1949. Le premier journal télévisé est diffusé en cette même année 1949. L'ORTF, dont nous avons entendu l'indicatif, est créé en 1964.
Oui, la télévision reste sous le contrôle de l'État. L'ORTF, c'est la voix de la France, disait le président Pompidou en juillet 1970. Ce contrôle a longtemps été contesté et le monopole d'État ne sera supprimé qu'en juillet 1982. Une année importante qui marque aussi la naissance des radios dites libres, comme Radio Tropique, aujourd'hui Radio B.
Revenons en 1962, l'année de l'édification du relais de Césaria. Combien de chaînes ? Quelles sont les émissions marquantes ?
Une seule chaîne, en noir et blanc, et pour quelques heures quotidiennes. L'année 1962 voit la création de deux émissions qui resteront dans les annales. La première est le jeu Interville. La seconde, Bonne nuit les petits, a marqué des générations d'enfants avec son marchand de sable.
Elle avait un petit côté moralisateur.
En effet, ouais. En début de soirée, ce marchand de sable indiquait aux enfants qu'il était temps d'aller au lit avant que les parents ne regardent le journal télévisé.
Toute une autre époque. Le 22 novembre 1963, la télévision prend une autre dimension avec l'assassinat du président américain John Kennedy, diffusé presque en direct.
Ces images seraient aujourd'hui banales, mais à l'époque, elles ont fortement marqué les esprits. La télévision permet de vivre, parfois en direct, les plus grands événements du monde, comme par exemple le couronnement de la reine Élisabeth II, le 2 juin 1953. Cette télévision poursuit son développement en France. La seconde chaîne arrive en 1964 et elle passe à la couleur en 1967. La troisième chaîne, en couleur, est lancée le 31 décembre 1972. Le relais de Césaria prend de l'importance dans un dispositif global de diffusion.
Bon, alors Gilliane, quittons maintenant l'histoire de la télévision et intéressons-nous à notre montagne qui supporte la tour hertzienne. Au sommet, un panneau routier indique Mont-Julie, altitude 590 mètres. Mais ce n'est pas la réalité géographique.
C'est vrai. Curieusement, nos lointains ancêtres n'ont jamais dénommé ce sommet, à l'inverse de ses voisins. Si on consulte les cartes, il est sur la chaîne de Rougemont, à proximité de la roche de Cuiron, qui est un lieu d'escalade. En réalité, le mont Julie désigne un hameau de Césaria, à mi-pente.
Césaria, mont Julie. Certains ont vu des références à Jules César et des vétérans de l'armée qui auraient installé un camp romain à proximité de la roche de Cuiron.
Oui, ce sont des visions des historiens du 19e siècle. Elles ont été remises en cause depuis. Et le camp serait plutôt un habitat proto-historique. Toutefois, les gallo-romains ont bien été présents dans nos contrées, comme le prouvent des médailles retrouvées, mais rien de particulier pour Césaria. Aujourd'hui, cette montagne reste un excellent site naturel à découvrir.
Elle appartient à la chaîne du Revermont qui a surgi récemment à l'échelle géologique des temps. Des fossiles peuvent être retrouvés occasionnellement. Les botanistes rechercheront les orchidées, pas pour les cueillir, mais pour le seul plaisir de les observer et de les identifier. Éventuellement, pour les dessiner ou les photographier.
Et les ornithologues aussi aiment ce site.
Oui, à chaque automne, ils s'installent à proximité de la roche de Cuiron pour observer la migration. Le site n'est pas un couloir de passage comme celui de Fort-l'Écluse, près de Bellegarde, ou le col de l'Escrimée en Ardèche. Mais il est intéressant pour les locaux, sur des observations au fil de l'année depuis plus de 30 ans. Ces passionnés appartenaient au Centre ornithologique Rhône-Alpes, qui lui-même a rejoint la LPO, soit la Ligue de protection des oiseaux. Il est possible de consulter leurs observations sur le site de la LPO 1. Les oiseaux les plus nombreux sont des passereaux, et parmi eux, les pinsons dominent très largement.
Et d'autres passionnés sur le site ?
Oui, oui, les astronomes. L'astronome Philippe de la Côtardière a installé un site d'observation à proximité de la tour dès 1966. Depuis, l'association astronomique de l'Ain y est régulièrement présente et elle participera, comme chaque année, à la nuit des étoiles au début du mois d'août.
Mais la montagne, c'est aussi un site de randonnée.
Ah, puis ça, oui, alors vous la connaissez bien, Gilliane. Les randonneurs pédestres y sont nombreux sur les sentiers dominant les vallées. Le sommet voit aussi passer de nombreux cyclistes. Il est sur le parcours de la cyclo-sportive La Bisou, organisée au départ de Pérona avec plus de 1000 participants. Au printemps, quand il n'y a pas le Covid ni le gel, comme en avril dernier.
Avant de quitter ce merveilleux panorama, qui s'étend au-delà de la Bresse et de la Dombes, selon les conditions météorologiques, un dernier point ?
Justement. Ce panorama fait le bonheur des chasseurs d'orages pour photographier les éclairs qui déchirent le ciel. Le site est connu des photographes qui animent un forum sur Internet et se retrouvent au sein d'un groupe sur Facebook. C'est une véritable passion et il ne faut pas manquer les quelques occasions favorables.
Et est-ce que nous poursuivons jusqu'à la chapelle des Conches ? En passant par le village abandonné de Saint-Julien-sur-Roche ?
Eh ben non. Nous irons une autre fois à cette chapelle, où une messe a été célébrée le lundi de Pentecôte. Nous descendons au Mont-Julie, à flanc de coteau, un hameau qui vit autour d'une fontaine alimentée par la source du Vanon. Gilliane, présentez-moi ce hameau.
En 1850, plus de 100 habitants y vivaient. Beaucoup de propriétaires cultivateurs qui entretenaient, chacun, un vignoble. La présence de l'eau sur des pentes abruptes est étonnante. Mais elle explique la formation de ce hameau très actif, comme le montre une carte postale ancienne. sa population baisse au début du XXe siècle.
Poursuivons notre route et traversons un passage à niveau. Le mois dernier, nous avons évoqué l'histoire de cette ligne ferroviaire touristique qui, depuis 1877, joint Bourg-en-Bresse à la Cluse et de là, Nantua et Bellegarde. La gare de Césaria était à proximité de ce passage et à côté d'elle, l'élégant hôtel du Mont-Julie, où l'on venait apprécier le cadre superbe et la bonne cuisine. Au XIXe siècle, on pouvait y déguster l'élixir du Mont-Julie, une liqueur à base de cassis.
L'hôtel a été supprimé après l'incendie qui l'a détruit et la gare n'est plus qu'un point d'arrêt. Mais Césaria voit serpenter les TGV Paris-Genève et, pour leur passage, la passerelle des Vendangeurs a été déplacée. Quelques mètres de voies ferrées y ont été placés pour rappeler son ancienne fonction. Et qui dit vendange à Césaria dit Grand Margot. La fête qui se déroulait 8 jours après la fin des vendanges, la revole, selon les traditions bressanes ou revermontoises. Il n'y a plus beaucoup de vendanges aujourd'hui, mais la fête s'est maintenue et une reine des vendanges est élue chaque année.
Allons, selon une version, Margot aurait été la cuisinière de l'astronome Jérôme Lalande, qui avait une maison à Césaria. Celle-ci avait appartenu à l'historien Michel Guichenon.
Césaria était, et c'est toujours, un village très prisé. Si nous restons dans le monde de l'écrit, nous pouvons citer le romancier Alexandre Dumas, qui a placé le repère de ses compagnons de Jéhu dans la grotte de Césaria, à proximité de la cascade de la Vallière. Dans son roman, un souterrain relie cette grotte à l'église de Brou et à la chartreuse de Seyon.
Voilà, nous avons terminé notre balade. Et nous quittons en dégustant...
Un biscuit Bouvard. L'enseigne a été créée rue Bichat à Bourg. Elle s'est installée à Césaria en 1920. Depuis, elle n'a cessé de prospérer. La mairie a valorisé la façade de l'ancienne maison Bouvard.
Merci Gilliane pour cette attention. Merci à Rémi qui nous a transmis de nombreuses informations que vous retrouverez, comme d'habitude, sur le site des Chroniques de Bresse. Merci à Jimmy à la technique. Alors, au revoir Gilliane. Au revoir, auditeurs de Radio B, les bonnes ondes. Un bel été à tous et avec un air qui va tous vous faire chanter Volare.
Penso qu'un sueño parasido no volverá más. E me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento la vida me llevó. Y me hizo volar. En el cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nello dipinto di blu, felice di stare lassù. Y volando, volando, felice, me encuentro bajo, bajo que el sol, y me traje en el mundo, sale con el paso de mí.
cielo no volverá más.